leur tracé, l'hiver, quand elle disparaissait sous les congères. Devant les portes, des vieux au visage de pierre méditaient. La pierre était partout, jusque dans les lentilles des sœurs Pachette. Et les fromages devenaient si durs avec le temps qu'on devait parfois les ouvrir au marteau et au coin, comme le rocher. À présent, ils reconnaissaient chaque pierre de Venteuge. La mairie école qu'il avait fréquentée 5 ans, de 1888 à 1893, bien partagée en 2 zones, l'une pour les filles, l'autre pour les garçons. Le chéneau qui, côté pile, descendait de l'étage, évacuant les eaux déviées de l'institutrice. Les enfants l'appelaient le trou de la dame. La croix de fer au-dessus de la toiture, souvenir de l'ancien couvent qui avait jadis occupé cette maison, devenu au moment de la laïcisation objet de conflit entre les partisans de l'Église et ceux de la neutralité, entre les blancs et les rouges, comme on disait alors. Ces derniers voulaient la remplacer par une girouette sans opinion. En fin de compte, les blancs, plus nombreux, avaient voté son maintien. La croix l'avait emportée sur la girouette, ce qui ne causait de tort à personne. Il reconnut l'atelier de Blancard, à la fois forgeron, maréchal, arracheur de dents et châtreur de porc. Les 2 autres cafés, la vicairie. Il dépassa la croix de mission gardée par 2 lionceaux de granit, marcha vers l'église, gravit les 5 degrés, poussa la porte. L'ombre y était si épaisse que d'abord il ne put rien distinguer, puis ses yeux s'habituèrent. Une odeur d'encens la parfumait, on avait dû enterrer récemment. Il revit la courbe des voûtes que soutenaient des ogives. Il reconnut bientôt tous les détails, la chaire, le mobilier, les ornements, la corde de la cloche à laquelle ils étaient si souvent suspendus avec ses copains, la Font, Delrieu ou Pigouli, le catafalque qui honorait les obsèques de première classe, la tirelire des offrandes, surmontée d'un petit ange en bois qui faisait une courbette de remerciement chaque fois qu'on y introduisait une pièce de monnaie. Il manquait d'ailleurs de discernement et remerciait aussi bien pour une rondelle de fer ou un bouton de culotte. Les bancs frustes, sans dossier. Les 4 vitraux, représentant les évangélistes. Mais Saint-Marc avait perdu sa tête, emportée par le caillou d'un antéchrist ou par un grêlon. Elle avait été remplacée, en attendant mieux, par une vitre transparente. À droite de l'autel, l'archange Saint-Michel triomphant du dragon. Et derrière, la fresque du dieu Pantocrator, c'est-à-dire Tout-Puissant, avec ses 3 couronnes superposées et son regard louche. Car le pauvre cher homme était affecté de strabisme divergent, un œil tourné vers Jérusalem, un autre vers Venteuge, en marge ride. Maladresse du portraitiste ou intention malicieuse. Le confessionnal. Cette armoire lui rappela un péché d'impureté qu'il avait commis à 12 ans, l'année du certif. En plein milieu de l'église, Pigouli lui avait refilé une image qu'il devait au chocolat Meunier. Chaque tablette offrait en prime une reproduction des trésors de nos musées. C'est ainsi que la liberté guidant le peuple était tombée entre ses mains. Elle représentait une femme à la poitrine dénudée, brandissant sur une barricade un drapeau tricolore. Le péché consistait à regarder avec plaisir cette dévergondée qui montrait ce qu'elle aurait dû couvrir. Or, au moment où Maurice Poudvigne se trouvait plongé dans cette contemplation, le curé Touchebœuf avait surgi soudain. Le jeune pénitent avait eu le réflexe de glisser l'image derrière le confessionnal. Quelques jours plus tard, il était revenu pour la reprendre. Vainement, il avait glissé la main entre l'armoire et le mur. Elle avait disparu. Les souris d'église, qui n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, avaient grignoté la liberté au sein.